c'est la rigueur et la discipline qui manquent dans les sports en France, mais aussi c'est la rigueur et la discipline qu'ils peuvent mettre en place parce qu'ils ont des effectifs assez gros.
Elian Canet, les préparateurs physiques des Bears de Missouri State University.
Je me suis dit, il faut que je trouve ce sport à côté qui me donne ses ambitions et qui me permette de me dire, je veux être un athlète. À ce moment-là, c'était Arnaud Vidalère, un coach assez populaire en France. Il me dit, mais t'es trop costaud pour faire du soccer, viens tester le football américain.
Tu disais qu'une chose qui t'avait vraiment marqué, c'est la culture là-bas.
Ici, le sport, il a une vraie importance dans la vie d'un sportif parce qu'il permet d'avoir une scholarship, donc des études payées. Et du coup, il y a vraiment cette discipline et cette intention de vouloir aller vraiment haut.
Selon toi, les top 5 des meilleurs exercices pour un joueur de football?
Squat, le number one. Clean, donc tout ce qui va être haltérophilie. J'ai envie de dire le sprint, le haut du corps. J'ai envie de dire développé couché. J'ai pas envie de rentrer trop spécifique parce qu'il y a plein de moyens, mais le RDL.
Bonjour tout le monde, bienvenue sur Le Game On. Je suis votre host, William Rochefort, et cette semaine, je reçois un Français, en fait, qui travaille aux États-Unis, Elian Canet. Merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. C'est vraiment le fun, j'ai hâte qu'on discute. T'es préparateur physique, mais en plus de ça, aujourd'hui, j'ai compris que t'étais un intern, un stagiaire un peu à l'Université du Missouri. Donc, j'ai hâte qu'on en discute. Merci, ouais. Sérieusement.
Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Ça me fait vraiment plaisir d'être là.
Chaque personne qui vient sur le podcast a le droit d'avoir une introduction. Donc, voici ton intro. Elian Canet, t'es préparateur physique des Bears de Missouri State University. T'es un grand sportif depuis tout jeune. Tu as joué au football au Québec, plus communément appelé le soccer, pendant 14 ans, ainsi que le judo, la course à pied et le street workout. Avec plus de 10 ans d'expérience dans le sport, tu décides à 18 ans de commencer le football américain avec un seul but en tête, d'aller jouer dans la ELF, European League of Football. Tu as fréquenté plusieurs clubs, dont le Grizzly de Perpignan, une équipe de Division 1. Tu as aussi gradué de l'Université de Montpellier comme préparateur physique. En plus d'être un coach privé spécialisé en sprint, musculation, street workout et préparation comprenant l'haltérophilie et la force athlétique, tu as aussi coaché 2 ans dans un club de rugby professionnel en France. Dans la dernière année, tu décides de traverser l'Atlantique pour venir coacher en Division 1 dans la NCAA Football. Elian, bienvenue sur Le Game On. C'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui. J'espère que j'ai rien manqué.
T'as rien manqué, t'as même été super précis.
Tant mieux. La première question, pour donner un peu de contexte à mes invités, j'aimerais savoir de où tu viens, c'est quoi ton histoire? Raconte-moi ça.
Alors, moi d'où je viens d'une petite ville dans le sud de la France, ça s'appelle Courthézon, c'est à côté d'Avignon, et plus grand c'est Marseille, on va dire. Bon, moi, de toute façon, dans tous les cas, j'ai toujours été super, super sportif, hein. Je courais, je faisais du foot avec mes parents depuis mes 4 ans, sur des skis depuis mes 4 ans aussi. J'ai fait mes premiers 10 km à 9 ans, enfin,
Quoi?
toujours super sportif. Et je me suis retrouvé logiquement dans le monde de la préparation physique parce que ben, je me voyais que travailler dans le sport et rien d'autre. Bien sûr, ben, le but c'était de terminer pro dans le soccer, mon premier sport, le sport que j'ai fait pendant le plus de temps. Et j'ai pas réussi malheureusement parce que ben, faut dire ce qui est, le niveau est très haut. Et aujourd'hui, bah, on retrouve dans le football américain avec un petit peu les mêmes ambitions parce que bah, peut-être un peu mieux préparé, un petit peu plus de connaissances sur les erreurs du passé que j'ai pu faire sportivement en tant que joueur de foot parce que aussi parce que j'étais jeune. Et puis voilà, aujourd'hui, on est là, on travaille dans la préparation physique. On essaye à côté aussi d'être le meilleur athlète possible.
Exact. Non, c'est bon. Par curiosité, je connais pas beaucoup le soccer, surtout en France. Je sais que c'est un sport énorme. Quand tu as décidé d'arrêter le soccer, c'était à quel niveau, si tu pouvais m'expliquer, mettons, si tu avais expliqué à quelqu'un qui connaît pas ça?
Ouais, alors moi en fait, je suis rentré très jeune durant le collège en sport-études à Avignon. Et du coup, pendant 2 ans, j'ai joué au niveau régional. Donc, on rencontrait un petit peu les pré-centres de formation des clubs de Ligue 1, donc Monaco, Nice, l'Olympique de Marseille, etc. Une fois que quand j'ai eu fini de faire mes détections pour on va dire les centres de formation et les clubs pro de Ligue 1, et que j'ai pas eu de demande pour rejoindre le centre, En fait, je me suis un petit peu retrouvé à jouer pour moi. Et puis, je suis rentré à la fac. Et en fait, je devais choisir un sport, une spécialité. Donc, j'ai choisi le foot. Et à partir du moment où je suis rentré à la fac, je me suis rendu compte que c'est plus ça que je voulais faire. Je me suis rendu compte que j'étais plus animé par la compétition du foot et que le soccer me procurait. Et du coup, je me suis dit, c'est à ce moment-là que j'avais aussi fait la transition un petit peu street workout, football. Donc, je commençais à vraiment beaucoup pratiquer le street workout pendant 3-4 ans. Et dès que je suis sorti de là à l'âge de 16-17 ans, et même 18 ans, je savais que le foot c'était plus ce qu'il me fallait et que c'était un petit peu tard pour percer professionnellement en parlant. Et du coup, j'avais plus cette animation que j'aurais pu avoir quand j'étais jeune. Et donc, forcément, aujourd'hui, j'ai le street workout qui avait pris pas mal d'ampleur avant d'arriver à la fac et sur mes premières années de fac aussi. Et quand je suis arrivé à la fac, j'ai trouvé la voie du football américain.
C'est quand même intéressant de voir un peu le pourquoi tu as choisi le football. C'est quoi cette fameuse flamme? Est-ce que tu serais capable de l'expliquer?
Ah ouais, carrément. Ouais. En fait, c'était simple, c'est que j'ai toujours fait un sport, pas d'endurance, mais bon, le foot, ça te donne quand même beaucoup de capacités d'endurance à courir, à répéter les efforts, etc. Et du coup, en parallèle, je courais énormément avec mes parents, je faisais des trails, etc. Enfin, beaucoup tout ça. Et en arrivant à la fac et en passant sur le street workout, justement, c'était plus des sports de force, plus nerveux, etc., avec pas mal d'agilité. Et en fait, avec ma formation de préparateur physique, en rentrant à la fac de Montpellier en STAPS, on commence à rentrer dans cet univers de musculation. Donc moi, j'ai touché mes premières barres de muscu, j'étais en L1 STAPS, L2, j'avais quoi, je crois 18 ans. Avant, c'était que du poids du corps. Donc ça me donnait quand même pas mal de base, en fait, au final, d'avoir fait du poids du corps. Mais j'avais jamais touché vraiment de barres de musculation. Et quand j'ai pris goût à tout ça, à avoir évolué mon physique, à me voir évoluer aussi athlétiquement parlant, et à vouloir aussi devenir beaucoup plus performant en tant que préparateur physique, je me suis dit, il faut que je trouve ce sport à côté qui me donne ses ambitions et qui me permette de me dire, je veux être un athlète. Et bizarrement, avant ma rentrée de L1, je m'entraînais sur un stade tout simplement de football américain, l'équipe de football américain de Montpellier. Et à ce moment-là, c'était Arnaud Vidalert, un coach assez populaire en France, qui a joué en équipe de France, etc., et qui a même joué aux États-Unis. Et à ce moment-là, il était head coach des Hurricanes de Montpellier. Et il me dit, mais t'es trop costaud pour faire du soccer, viens tester le football américain. Du coup,
Let's go.
moi, je ne prends pas trop ça au sérieux. Mais de loin, je voyais un petit peu l'entraînement, ce que c'était, etc., l'ambiance. Et j'ai laissé passer pendant, je pense, 6 mois. J'ai pas fait plus attention que ça parce que j'étais encore focus dans le foot. Je m'étais dit, il y a peut-être un moyen de raccrocher le haut niveau. Après, je suis pas vraiment passé à autre chose. Et durant mon année de L2, où j'ai commencé à pratiquer l'haltérophilie, etc., j'ai fait, bon, faut que je me trouve un sport où il y a un petit peu plus de physique, un petit peu plus, voilà, où je sens que tout ce que je vais travailler, ça va être mis à profit du sport que je pratique. Et je me retrouve à m'embarquer avec un pote qui est maintenant un de mes meilleurs amis, qui faisait de l'haltérophilie avec moi ce jour-là sur le même plateau d'haltérophilie. Et je lui ai dit, mais mec, viens, on va tester le football américain. Lui, il venait du rugby et moi, je venais du foot. Et j'ai fait, viens, on y va, on va tester. Et moi, j'ai accroché de fou. Avant ça, j'avais testé le rugby et l'ambiance qu'il y avait, j'avais testé dans un petit club de Fédéral 3, c'était pas fou. Et l'ambiance qu'il y avait dans le foot US, j'ai trouvé que ça collait vraiment avec ma personnalité, quoi. Et en plus de ça, je kiffais le sport. Enfin, au début, j'arrive à l'entraînement, je comprends rien. Cover 3, Queen, etc. Elian perdu, bien sûr. Mais j'ai été animé de fou et ça m'a donné envie d'en apprendre tellement plus. Et du coup, je me suis livré à fond à partir de ce moment-là dans ce sport-là. Voilà.
Ah, t'as eu la piqûre, comme on dit. J'ai
Ah ouais.
la même chose quand j'ai commencé. J'ai commencé avec mon voisin. Quand on était jeune, à 8 ans, on jouait au football. C'était dans la cour arrière jusqu'à un jour on a décidé d'aller s'inscrire. Puis c'est comme ça que ça tout a commencé. Mais c'est vraiment une belle histoire, honnêtement, que comment ça fonctionne le football en Europe? Parce que ça n'a pas l'air si facile que ça, ce que je comprends, de s'inscrire. Nous, ici au Québec, c'est relié avec l'école. Je ne sais pas pour vous, c'est comment.
Alors. Nous, le principe de la France, il diffère énormément de celui des États-Unis et du Canada. C'est-à-dire que tout est organisé sous format de club.
OK.
C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est relié. Il n'y a rien qui est relié à l'école directement. Tu as ton sport universitaire. Il y a un sport universitaire, mais qui est nul comparé à ce qu'on peut retrouver aux États-Unis ou même au Canada, où là, c'est presque du niveau, c'est le pré-pro, on va dire. C'est avant d'arriver dans le professionnel. Et du coup, en France, le format du football américain, c'est que tu as quatre divisions. Maintenant, je crois que tu en as trois et tu en as une régionale, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, tu as quatre divisions. La division 1, c'est la plus haute. Et après, par contre, aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que tu as l'ELF, qui est la première ligue professionnelle, où là, c'est une ligue fermée, un format qu'on va retrouver plus comme la NFL, avec des équipes qui sont là toutes les années. Et là, par contre, tout le monde est payé, etc. C'est la première ligue pro. Et tu as aussi la GFL, qui commence à être pas mal, mais c'est aussi on va dire, le même système qu'en France, où c'est un club à part entière du système universitaire.
Que je comprends. Dans le fond, c'est ça, c'est que ça marche plus sous forme de club, comme je comprends, que il n'y a pas beaucoup de sport qui a l'air associé aux écoles, en fait,
Non.
en
Il y a
France.
du sport associé aux écoles, mais c'est pas du tout énorme, c'est pas du tout suivi, c'est vraiment ludique. Voilà, c'est pour les gens qui veulent peut-être faire un sport, mais pas en compétition, plus en loisir, etc.
T'as décidé d'aller coacher aux États-Unis. C'est quoi le plus gros choc culturel que tu as eu en arrivant là-bas?
Ah, le choc culturel. Là, comme ça, je dirais. La nourriture, peut-être.
Ah
La nourriture. Ici,
Moins
par
bon.
exemple. Allez, oui, forcément, quand tu viens de France, c'est dur de rivaliser, si tu vois ce que je veux dire. Et je dirais pas que c'est moins bon, je dirais plus que c'est dû à des habitudes. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait 20 ans que tu vis dans un pays où tu as tes habitudes, tu as tes produits, tu as une façon de cuisiner. Et puis, tu vas dans un pays où c'est tout différent, tout est un petit peu plus gras, un petit peu plus salé. Donc moi qui n'ai pas l'habitude de manger salé, ici, dès que je mange un truc, c'est super salé. Ça devient, ils mettent pas mal d'additifs et tout devient très vite très gras. Je pense que c'est, si je te dis le premier truc, ça serait ça, tu vois. Et le niveau de vie est assez différent, tu vois. Par exemple, les logements, tu sais, le prix du logement, le prix de tout ça, c'est différent dans France, tu vois. Genre, une location de chambre, moi, comme je paye ici, ben, ça peut être 900 $ par mois, quoi.
Oh my God.
Et c'est pas cher.
Ouais, c'est
Donc,
ça.
c'est-à-dire que je vis dans le Missouri. Donc, c'est le fin fond de l'Amérique centrale et c'est pas la grosse ville, quoi. Pour des mecs qui veulent vivre plus proche de la Floride ou des facs en Floride ou quoi, ta chambre en colocation, elle va te coûter 1 800 €, quoi.
Oh my God.
100 $, je veux dire.
C'est fou ça par contre, mais c'est des bons chocs culturels pour vrai, parce que tu vois, même moi que j'habite au Québec, puis tu vas quand tu vas aux États-Unis, il y a le choc culturel aussi quand même un peu. Puis je parle,
Oui.
ils ont leur culture, puis ils la vivent, t'sais, ça fait partie d'eux, mais ça
Ouais.
m'étonne pas ce que tu me dis honnêtement. Je suis jamais allé en France, il va falloir que j'aille faire un tour,
Ouais,
mais
carrément.
je suis extrêmement curieux de ça. Comment tu as eu ta chance pour aller à MO State?
Alors, moi, c'était simple. Je travaillais dans le rugby juste avant, pendant 2 ans. En fait, j'ai toujours voulu être aux États-Unis, toujours voulu travailler aux États-Unis. Et j'ai l'avantage que Grégoire Noël, c'est un Français qui vient du Canada, qui vient de Bishop.
Oui.
Et du coup, lui, il a fait plus 2 années à FIU et il a eu son premier contrat et son premier travail de GA ici. Donc, c'est un graduate assistant. Donc, c'est un genre de, si je compare à la France, c'est un format d'alternance en fait, si tu veux. Et en gros, tu fais un master ici et t'es coach pendant 2 ans ici rémunéré. Et c'est grâce à lui, en quelque sorte, que j'ai pu accéder à ce stage parce qu'il m'a mis en contact avec justement le head of performance d'ici et le head strength coach. Et du coup, j'ai pu faire un entretien et avoir cette opportunité-là.
Des contacts, c'est important, mais c'est vraiment cool.
C'est bête, mais ça fait toute la différence. Après, Je pense que j'ai aussi été aidé des réseaux sociaux à ce moment-là parce que ben voilà, je montrais déjà un petit peu ce que je faisais avec mes joueurs sur le rugby et aussi aidé du fait que j'avais déjà un diplôme. J'avais déjà un master. Ça m'a pas mal aidé sur le fait de décrocher cette internship, quoi.
C'est quoi exactement ton rôle là-bas?
Bah, en fait, on va dire, j'ai le même rôle qu'un préparateur physique normal. Juste, ce qui différencie, c'est que je suis pas payé. Donc, c'est triste, mais quand on arrive dans le sport de haut niveau, tu peux pas arriver, surtout quand t'es étranger aux États-Unis. Tu peux pas avoir le droit de travail comme si tu arrivais en France, ben voilà, petit contrat, etc. Non, non, ici, s'il te faut une green card, si t'as pas cette green card, tu peux pas travailler. Donc, moi, ici, le seul truc, c'était soit j'étais JA, ce qui était pas possible parce qu'il y avait déjà les deux places prises, et soit j'étais stagiaire. Donc, et puis. T'es pas JA comme ça, il faut que les gens te connaissent, il faut que tu fasses ton trou, etc. Donc j'ai pu décrocher ça et je l'ai pris direct parce que c'est une opportunité de fou dans une D1 américaine, quoi.
Non, exact. C'est le genre d'opportunité que tu peux pas dire non. T'as pas le
Exactement.
choix parce que peu importe ce qui arrive avec ça, c'est sûr que tu vas apprendre de ça. C'est sûr que
Ouais, bien
tu vas
sûr.
ressortir des bonnes leçons, mais surtout, c'est que c'est hyper bon sur un CV. Donc,
Exactement. Franchement, je l'ai vu plus comme un investissement en moi-même qu'autre chose.
exact.
Et c'est comme ça, je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir pour la plupart des gens. Après, voilà, comme je dis, c'est un sens des priorités. Et aujourd'hui, pour moi, c'était une priorité. J'ai toujours voulu y aller. J'ai jamais pu vraiment réaliser ça parce que, ben, avec des petits bâtons dans les roues durant mes années de faculté. Et aujourd'hui, ben, j'ai les moyens de pouvoir faire ça. Donc, je me suis dit, ben, go.
Non, effectivement. Sérieusement, t'as bien fait, sérieusement. C'est vraiment cool ce que tu vis. Je suis beaucoup tes vidéos que tu regardes, que tu fais, puis je regarde beaucoup ça. Puis j'ai vu que, en fait, je vois souvent les émissions un peu que tu fais, des matchs. C'est un show incroyable, la NCAA. Probablement un des plus gros shows de sport que j'ai jamais vu. Est-ce que tu veux m'expliquer un peu ton expérience des matchs de là-bas, en fait?
L'expérience des matchs là-bas, franchement, c'est différent de ce qu'on peut avoir, hein. Surtout quand t'es dans l'effectif, dans le staff, etc. Tu vis, t'es au centre, quoi, de tout ce qui va. Nous, si tu veux, on fait pas trop partie du show à proprement parler, parce que on est toujours en préparation de quelque chose pour que bah, les joueurs ils manquent de rien, etc. Et faire en sorte que toute l'équipe et le staff soient dans les meilleures conditions, tu vois. Donc, on n'est pas trop convié à tout ça, mais c'est vrai que l'ambiance dans les stades, les étudiants qui viennent, tous les étudiants, en fait, ils sont animés parce que ben, ils aiment l'université, ils ont un sentiment d'appartenance à l'université dans laquelle ils sont. Et du coup, y a un engouement en plus de la part des gens qui viennent voir les matchs parce que ben, il y a ce truc de c'est mon université, tu vois. Un amour qui est direct porté à l'université, contrairement à ce qu'on pourrait trouver en France où c'est plus des clubs et on est supporter d'un club, mais là, ce qui est différent, c'est que les gens étudient dans la même université, donc il y a ce truc en plus. Et du coup, l'osmose est différente. T'as pu, tu peux, ouais, enfin, il y a vraiment une vraie atmosphère incroyable. Et puis, le fait d'avoir des orchestres, des choses comme ça change vraiment.
Puis j'avais vu aussi dans une de tes vidéos que tu parlais de la culture. Tu disais qu'une chose qui t'avait vraiment marqué, c'est la culture là-bas. T'en glisses un peu un mot dans ce que j'entends en ce moment. Dans le fond, c'est dans leur culture, mais mettons si on va un peu plus loin que ça ressemble à quoi la culture là-bas, tu sais?
Bah, moi, en fait, de ce que je compare par rapport à la France, c'est que ici, le sport, il a une vraie importance dans la vie d'un sportif, et même pas un sportif, mais un jeune, parce qu'il permet d'avoir une scholarship, donc des études payées, sachant que les études sont payantes ici. Et du coup, il y a vraiment cette discipline et cette attention de vouloir aller vraiment haut. Ce qui manque un petit peu en France, si je compare à la France, tu vois, et c'est ce truc de on met les moyens pour être bon dans le sport. Et ce que vraiment j'ai kiffé ici, c'est que je pense que l'éducation et le système est fait pour que tous les étudiants puissent faire du sport et puissent avoir accès à du sport parce que ils savent les bénéfices que ça peut avoir sur beaucoup de personnes et que ben voilà, c'est important de pratiquer quelque chose en compétition et ici il l'amène à un autre niveau quoi. C'est ça qui est vraiment différent de ce qu'on peut avoir en France quoi.
Ah, c'est hyper intéressant ce que tu me dis là. C'est, dans le fond, le fait d'être dedans, tu le vois en ce moment puis tu le vis. Ce que je comprends, c'est que tu me dis que ils ont tellement investi dans le sport que ben ça permet aussi aux gens de pratiquer des sports pour leur université, pour avoir accès à de l'éducation et tout ça. Donc, c'est vraiment cool. Sérieusement, tu vois, j'avais cette discussion-là avec des coachs de certains programmes de football qui est juste sur le podcast, puis ils me disaient que, tu sais, peut-être que les écoles, les gouvernements devraient plus investir dans les sports. Probablement que ça pourrait pousser encore plus les écoles. Puis on a la preuve juste ici. T'sais. Ça pourrait pousser encore plus les écoles, ça pourrait pousser les étudiants. Puis c'est prouvé que c'est bon. Qui, t'sais, je parle, qui ne sait pas que faire du sport, c'est bon, comme. Donc.
Ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça que les écoles, en fait, ici, c'est plus aussi un business parce que les écoles savent que si elles ont des équipes sportives performantes, elles vont attirer plus de monde, plus
Exact.
d'étudiants. Donc, comme les études sont payantes, bah, elles ont tout intérêt à investir dans le football puisqu'elles récupèrent des étudiants derrière. Même si aujourd'hui, on sait que le football universitaire, il est tellement gros qu'il y a beaucoup d'universités qui ne gagnent pas d'argent grâce au football.
Ah, ça, c'est fou, par contre.
Donc après il faut enfin je suis pas dans les comptes de l'université loin de là mais c'est avoir un effectif et une équipe de football ça coûte extrêmement cher
Ouais,
extrêmement
sûrement. Avec les installations et tout,
les
ça doit être.
installations les voyages la nourriture les tout ce qui va à côté en fait les équipements tout les salaires des coachs enfin c'est ouf c'est ouf.
C'est quoi, selon toi, les essentiels pour devenir un joueur NCAA Division 1 au football américain?
C'est triste, mais il y a pas mal de gabarits, de génétique. Parce que bah, voilà, tu veux être O-line, faut être grand. Faut être grand, faut être costaud. Tu veux être D-line, faut être grand, faut être costaud. Si tu veux être linebacker, bah, faut être musclé. Après, bah, voilà, ça dépend que du travail de chacun. Les seuls postes où vraiment il n'y a pas ce facteur, y a pas ce facteur physique qui va rentrer en jeu. Ça va être vraiment receveur un peu plus, mais j'ai envie de dire, si tu as envie d'aller plus loin après, si tu habites dans des grosses universités, il n'y a pas le choix que d'être des fois grand, costaud. Faut avoir un facteur génétique en compte. Et après, bah, si, j'ai envie de dire, tout le monde peut le faire, c'est juste beaucoup de travail, énormément de travail.
Un peu comme j'ai vu que tu avais un programme, tu travaillais sur, pas le programme, mais le projet ELF.
Ouais.
Dans le fond, si tu veux m'expliquer un peu, c'est quoi?
Ça, c'est plus mon, tu
Ouais.
vois, mon côté perso en tant qu'athlète. Comme je t'avais dit, moi, c'est le regret que j'ai eu depuis beaucoup d'années, c'est de ne pas avoir percé pro dans le soccer. Et quand j'ai retrouvé le football américain, ben, là, je me suis retrouvé à avoir vraiment des ambitions dans ce sport. Et à travers ben, le foot US, au final, j'ai vu que je pouvais peut-être aller plus loin dans le côté professionnel en Europe. Okay, je ne me suis jamais dit que j'allais percer en NFL bah, parce que j'ai commencé un petit peu tard. Et puis voilà, c'est quand même costaud la NFL. Enfin, faudrait être né aux États-Unis, j'imagine. Mais en tout cas, le LF, c'est pour moi la première ligue pro en Europe. Donc je me suis dit, ça serait quand même fou de pouvoir le réaliser. Et je l'ai réalisé en quelque sorte parce que j'ai joué avec les Dragons de Barcelone,
Ok, cool.
qui était une équipe ELF. Au moment où ça allait un petit peu mal, mais ils ont dû refaire l'équipe, etc. Donc, bah, j'ai pu rentrer dans l'équipe et faire la moitié de la saison. Donc c'est une expérience de fou. On va dire que j'ai un petit peu réussi ce projet ELF, mais j'aimerais beaucoup plus m'installer en tant que joueur dans cette ligue et avoir voilà, quelque chose de plus pérenne, on va dire. Et puis voilà, donc ça, c'est le projet que moi, je me suis lancé en perso à côté. D'atteindre un petit peu ce stade de joueur pro dans le football américain en Europe.
Non, j'aime ça. Puis est-ce que tu sais, vu que tu es tout le temps avec l'équipe, tout le temps avec les joueurs, tu t'entraînes avec eux et tout, je suppose que tu dois quand même apprendre beaucoup aussi sur le côté football. Tu dois prendre des notes, tu dois...
Oui. Bah, moi, je me sers des... Même si je pratique pas aujourd'hui, parce que je suis coach, donc je peux pas aller sur le terrain, me prendre un casque et faire un entraînement avec eux, c'est pas possible. Même si, bien sûr, j'aimerais bien, c'est comme tout joueur qui a envie de progresser. Mais oui, là, j'ai eu la chance de pouvoir accéder à tous les... Il y a les fall camps durant tout le mois d'août, de pouvoir accéder à tous les visios des fall camps en tant que linebacker. Donc avec le groupe des linebackers, donc c'est 3 visios par jour de tactique sur le playbook, etc. Enfin, j'ai pu apprendre aussi un petit peu le playbook qu'on a ici. J'ai eu pas mal d'expérience sur ça, et puis j'ai la chance d'avoir accès, d'être sur tous les entraînements. Donc dès qu'il y a des installs, du run game, je me mets derrière, je me fais mes lectures, etc. Donc je progresse en tant que prépa physique, mais aussi en tant que joueur derrière. Ça, c'est l'avantage. Et puis, je me dis, en fait, à être ici, je laisse aucune miette de côté. Tout ce que je peux apprendre, je l'apprends, quoi.
Non,
Tant sur le
exact.
côté que sur le côté prépa physique.
Exact. Est-ce que tu as l'intention de retourner en France par la suite?
Ouais, c'est en projet.
Ouais.
C'est en projet. J'ai pu... J'aurais peut-être pu rester ici en tant que peut-être GA par la suite. Mais aujourd'hui, moi, mon projet était quand même de retourner en Europe pour essayer de continuer mon projet de football américain, et puis aussi continuer mon projet d'entreprendre, d'accompagner les athlètes autour de moi sur du coaching en ligne, etc., ou même sur des stages de performance, etc. Donc, mon but, ça serait quand même de rester un petit peu en tant qu'athlète et essayer de percer professionnel. Moi, ce que j'aimerais faire, ce serait vraiment profiter en fait du temps que j'ai et que je sois jeune aussi, profiter du fait que je sois jeune, parce qu'aujourd'hui je viens d'avoir que 23 ans, donc je me dis si je peux arriver et faire ma petite carrière jusqu'à mes 30 ans, c'est le seul moment où je pourrais le faire.
Exact.
Donc c'est ça, c'est des années que je pourrais pas racheter, que je pourrais pas avoir. Et aujourd'hui, ce qui me rend heureux et ce qui me fait vibrer, c'est le fait de jouer aussi au football. Et aujourd'hui, je ne peux pas tout mettre de côté pour espérer rester travailler ici et travailler pour une université, sachant qu'à côté, je ne pourrais pas pratiquer ce que j'aime le plus, quoi.
Exact.
Donc, je pense retourner en France à la fin de la saison avec Missouri State.
Très cool. C'est quoi, tu penses, la différence entre la mentalité des joueurs français dans ton cas, vu que c'est ce que tu connais, et les athlètes américains?
Je dirais pas que la mentalité change énormément parce que entre un Français et un Américain qui veut percer, si t'es vraiment dédié à ce que tu veux faire, ils vont tous travailler autant les uns que les autres. Je pense que ce qui va changer, ça va être vraiment les opportunités. Plus aux États-Unis, ça va être beaucoup plus facile de signer dans une université américaine parce qu'on est américain et qu'on est sur le milieu. Ici en France, tu veux percer et que tu as envie d'aller aux États-Unis parce que c'est le rêve de beaucoup de joueurs de foot, de jeunes joueurs de foot. C'est plus dur. Tu es obligé de passer par des petites portes. Faut vraiment en vouloir. Donc je dirais même plus que les joueurs français qui arrivent à aller aux États-Unis et percer aux États-Unis, c'est une vraie détermination. C'est un vrai exemple parce que aujourd'hui, il y a très peu qui arrivent à le faire. On a très peu qui arrivent à le faire. Et c'est un vrai exemple de détermination et de travail acharné.
Est-ce qu'il y a des Français qui jouent, que ce soit NFL, CFL,
Ouais, il y a des Français en CFL. Il y a Maxime Rouillet qui joue à Vancouver, au Bearcat.
Oui.
Ensuite, je connais pas tous les joueurs français CFL, mais en NFL, il y avait Junior Ao qui était en NFL aux Falcons. Je sais pas ce qu'il devient actuellement, mais ça, c'était les actus. Il y avait aussi dernièrement un D-line qui était à Virginia Tech, qui a fait le camp et qui aurait pu faire la practice squad des Patriots. Et par souci de visa, justement, il a dû retourner en France.
Oh my God.
Donc, en fait, c'est aussi une limite de le fait de pas être américain parce que on en revient toujours à la même problématique. Pour travailler aux États-Unis, il faut la green card. Et pour avoir une green card, c'est souvent très cher et donc ou très, très, très compliqué de l'avoir. Donc, voilà. Il y a, ça, c'est les deux seuls. Après, je sais que dans le temps, il y en a eu quelques-uns aussi. Il y a eu Mangou, il y a eu. Je ne veux pas dire de bêtises sur les noms, mais il y en a eu plusieurs.
Parlons d'entraînement, parce que c'est ce que tu fais à Missouri State. Une saison d'NCAA, ça dure quand même 17 matchs si tu te rends jusqu'au National Championship. Mais une saison normale, c'est 12 matchs, qui est quand même énorme pour des étudiants entre 18 et quoi, 20, 21, 22 ans.
Ouais, c'est ça.
Comment vous vous entraînez pour permettre à vos athlètes de performer toute la saison?
Alors, nous, on a un gros, gros travail de foncier qui va être durant l'été. L'été, c'est là où on va en profiter pour faire tout ce qu'on peut faire, mettre un gros, etc. Dès qu'on arrive en saison, ça commence à devenir compliqué. Parce qu'on a, avec les joueurs avec lesquels on voyage, forcément, le voyage, ça fatigue, les matchs, ça fatigue. Et en fait, quand tu regardes bah, déjà tout ça, tu as déjà un week-end de 3 jours. Parce que tu pars la veille, ensuite, tu as le jour du match. Et tu as le lendemain de match. Donc ça déjà, c'est 3 jours où tu t'entraînes pas. Et ensuite, tu as la semaine. Et la semaine, tu peux pas mettre non plus 5 entraînements par semaine. Parce que 5 entraînements par semaine, plus 4 entraînements de football américain sur le terrain de 2 heures, tu te rends compte que tes joueurs, tu les amènes en salle, ils n'ont pas envie de pousser une seule barre, je te le dis. Et puis même avec les retours de match. Donc ça, tout ça, c'est à prendre en compte. Et c'est quelque chose qui a beaucoup plus à prendre en compte que quand on fait peut-être des sports non professionnels, bah parce que la charge subie par le corps, surtout dans les sports de contact, elle va être énorme. Donc nous, vraiment, ce qu'on va essayer ici en saison, c'est surtout maintenir nos joueurs au taux de force qu'ils peuvent maintenir. Donc c'est-à-dire que si on a des joueurs qui sont capables de développer 200 kilos, nous, notre but, c'est pas de les faire 200 kilos au squat, c'est pas de les faire squatter à 200 kilos en pleine saison, mais ça va être de vraiment osciller pas loin de ça, ou même de développer la vitesse, ça dépend des cycles qu'on va faire. Nous, ici, on utilise pas mal de systèmes ondulatoires où on va faire varier les charges en fonction des semaines pour maintenir un petit peu cet impact sur le système nerveux. On va pas passer énormément de temps sur nos pourcentages maximaux parce que ça taxe énormément. Et ça peut être responsable de pas mal de courbatures. Nous, ce qu'il faut qu'on garde en tête ici, c'est que nos joueurs, il faut qu'ils soient frais sur le terrain, donc frais, performants. Donc, si on leur ajoute des courbatures en plus des courbatures des matchs et des entraînements de foot US, ben, en fait, on peut les perdre avec des petites blessures bêtes. Et nous, c'est ce qu'on veut éviter.
Non, exact.
Voilà.
Mais il n'y a rien de pire qu'à être surchargé, puis après ça, arriver sur le terrain, puis jouer fatigué, parce que c'est là que tu te blesses. C'est quand
Ouais.
même intéressant. Ça ressemble à quoi habituellement une semaine typique NCAA, mettons?
En tant que prépa ou en tant que joueur?
En tant que joueur.
En tant que joueur, alors je connais pas tout leur emploi du temps, mais moi
Ben,
ils
parlons
ont
de
une
ce que
semaine.
tu connais, en parlant de toi. Ça ressemble à quoi, mettons, ta semaine?
La semaine à moi, alors déjà on travaille tous les jours, on est 7 sur 7, donc c'est-à-dire qu'il y a pas de, des, pas de, on n'a pas de week-end, pas de jour de repos, on se lève, donc moi je me lève à 4h20 à peu près, 4h15. Pour être à la salle vers 4h45. Dès qu'on arrive à la salle, on fait nos premières réunions. Première réunion avec le staff, comment on va se passer la séance, etc. Ensuite, on a 3 groupes de lift de 6h du matin à 9h. Et ensuite, à la fin de ces groupes, on nettoie la salle, etc. Puis on a nos réunions d'après-midi. Et ensuite, on attend pour le. On attend pour le, on a le temps de s'entraîner un petit peu entre midi et deux. Et ensuite, on a entraînement sur le terrain après les réunions de special team et position meeting et les meetings de position. On a les entraînements sur le terrain aux alentours de 15h, enfin 3h de l'après-midi, sur le terrain pendant à peu près 2h30, 2h.
Quand même.
Voilà. Et ensuite, le soir, on range tout et puis on peut rentrer, mais ça sera, on rentre chez nous aux alentours de. Ouais, 18h, 19h.
La journée commence très tôt, mais finit tôt quand même aussi. Donc ça vous laisse le temps au moins de...
Ouais, finito. On arrive parce que ah, le problème c'est qu'on c'est il faut qu'on finisse tôt parce que si tu veux dormir, tu t'es oublié de
Exact, exact,
le...
exact.
Donc en fait, arrive à ouais, tu pars à 4h20 de chez toi et ensuite enfin 4h30 de chez toi et puis tu rentres le soir à peut-être 18h30 à 19h le temps de manger etc. et en fait tu arrives à 20h30, c'est déjà l'heure de dormir quoi, parce que sinon après tu dors pas
Ouais,
assez quoi.
exact, exact.
Dors pas assez quoi.
C'est des horaires hyper chargés quand même, là. C'est quand même impressionnant, je m'attendais pas à ça. Mais tu vois, c'est là que tu vois le niveau, le hard work que ça prend, parce que s'ils font pas ça, ben ils pourraient probablement pas garder leur statut, puis ils pourraient pas garder. Probablement que tout le monde fait ça, en fait.
Et après aussi, c'est aussi nos joueurs, nous, on essaye de leur placer plusieurs trucs dans la journée, parce que ben on est quand même à la fac, et à la fac, c'est aussi assimilé à fête dans beaucoup d'universités. Et nos joueurs, faut pas oublier qu'ils sont jeunes. Et on a des joueurs qui ont même 17 ans, hein, entre 17 et 18 ans. Et c'est normal de vouloir d'avoir envie de sortir. Mais nous, notre emploi du temps, et toutes les facs fonctionnent de la même façon, il est fait de façon à ce que ben, il faut pas que nos joueurs sortent, parce qu'on les veut performants sur le terrain. Et
Exact.
on veut qu'ils dorment bien, on veut que tout soit fait de la bonne façon. Parce que quand tu es un athlète, des fois, tu dois faire des choix, malheureusement.
Exact.
Et pendant la saison, on essaye de faire en sorte que nos joueurs ne sortent pas, même si on sait que ça arrive, mais voilà, c'est fait aussi pour ça.
Ouais, exact. Très comprenant pour vrai. J'avais parlé avec une couple de coachs qui m'avait dit la même affaire, dans le sens que, t'sais, on veut voir qui est vraiment engagé.
C'est
Donc,
ça.
de là, le fait de mettre les horaires assez stricts, mais pour voir qui veut vraiment faire partie du groupe et veut vraiment réussir. Donc, très
Oui,
intéressant.
il n'y a pas le droit au retard ici aussi, donc
Ah, exact, c'est ça, exact. Hein? C'est ça qu'ils disent. Si t'es. Ils disent quoi? Arriver à l'heure, c'est 5 minutes d'avance, mais à l'heure, c'est en retard. Donc,
En fait, nous, le fonctionnement, il est simple. Tu dois arriver 5 minutes en avance, c'est l'heure où tu dois être dans la salle, prêt à commencer le lift. Et si tu arrives une seconde après les 5 minutes d'avance, donc si tu as lift à 6 heures et que tu n'arrives pas à 5h55, pour commencer le lift à 6h, bah t'as une punition.
Wow, c'est très bien, c'est très bien,
Et c'est
ça paraît strict, ça paraît
la
strict.
rigueur et la, et en fait, c'est la rigueur et la discipline qui manquent un petit peu dans les sports en France, mais aussi c'est de la rigueur et la discipline qu'ils peuvent mettre en place parce qu'ils ont des effectifs assez gros pour pouvoir se priver de joueurs.
Ouais,
Donc
exact.
il y a des avantages parce qu'il y a des moyens. Et en France, aujourd'hui, c'est un petit peu dur de faire la même chose parce qu'on n'a pas les mêmes moyens et du coup, on ne peut pas mettre en place les mêmes règles. Ou du moins, c'est très compliqué parce que ici, c'est comme en NFL. Il y a un joueur qui ne te plaît pas, tu le cut, il est en dehors de l'équipe. Aujourd'hui, dans le rugby, tu as un effectif de 30 joueurs, tu as un effectif de jeunes 30 joueurs, 35 joueurs. Tu enlèves un joueur, si tu es un blessé, tu es foutu, quoi.
Ouais,
Sauf que
c'est ça.
financièrement, tu peux pas te permettre d'avoir plus de joueurs. Donc, en fait, il faut le problème numéro un, ça reste l'argent.
Exact, hein, c'est ça, exact. Mais ça, c'est quand même intéressant ce que tu me dis. Tu sais, c'est vrai qu'ils ont un bassin de joueurs qui est vraiment énorme. Donc, il y a ça, mais il y a aussi les installations, il y a l'argent derrière ça. Donc, c'est comprenable. Tu sais, si je regarde dans l'historique du football, ça. S'il y a une chose que ce sport-là nous amène, c'est justement cette rigueur-là, dans le fond. Je connais pas beaucoup de sports où est-ce que les gens doivent être autant à l'heure que ça, doivent respecter autant des règles strictes comme
Ouais,
ça.
carrément. C'est parce que le football américain vient un peu du milieu de l'armée, donc
Exact.
ça.
C'est quoi les erreurs les plus fréquentes que des fois tu peux observer chez les joueurs quand on vient le temps de s'entraîner, que ce soit en force et en conditionnement?
Les erreurs les plus fréquentes de leur part. En dehors de l'université ou sur des personnes que j'accompagne, parce qu'en
Vas-y.
en soi, quand ils sont accompagnés en présentiel avec nous, le but c'est qu'il n'y ait pas d'erreur. Donc en soi, il n'y a pas énormément d'erreurs parce qu'ils font ce qu'on leur donne Et c'est très rare même de voir un joueur faire plus parce que bah, y a un... on joue avec la limite de ce qui est supportable par le corps pour justement les enfin suivant les saisons, mais de façon à ce que ça soit bénéfique pour lui. Donc on va dire que ici il n'y a pas trop d'erreurs. Après, des fois, ce qui arrive souvent avec les joueurs qui veulent progresser, c'est soit qu'ils veulent en faire trop, et soit qu'ils pensent qu'ils en font beaucoup, mais ils n'en font pas assez. Donc, trouver le juste milieu dans le travail et en fonction des qualités que tu vas vouloir bosser, ben, c'est un petit peu compliqué pour pas mal de joueurs en général.
Non, exact. Surtout, ça doit moins être présent, comme tu dis, dans votre réalité où est-ce que vous êtes tout le temps suivi. Mais mettons pour des joueurs qui veulent se préparer de l'extérieur, ça peut devenir un peu compliqué, là. T'sais,
C'est ça, c'est ça.
Si c'est comme, mettons, les Français, comme toi, mettons, quand tu te préparais. T'sais, des fois, il y avait sûr qu'il fallait que tu ailles te chercher de l'aide à l'extérieur, des coachs, whatever.
Ouais.
Il y a des joueurs qui n'ont pas tout le temps ces opportunités-là, mais c'est intéressant que tu me dises ça. Encore une fois, ça prouve qu'ils ne donnent pas de chance à l'erreur. Donc, si tu n'es pas parfait dans ce que tu fais, tu
Exactement,
réussiras
bah.
pas.
Ils sont attentifs aux détails. Donc,
Exact.
ça partout. Et comme moi, j'en reviens un petit peu à l'histoire que j'ai vécue. Et j'ai peut-être aujourd'hui, j'ai peut-être percé, j'ai peut-être pas percé dans le soccer parce que ben, j'avais ces petits soucis et ces petits problèmes que je savais pas auxquels répondre. Enfin, je savais pas y répondre concrètement, comment m'entraîner réellement, etc. Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux sur mon entraînement? Et puis aujourd'hui, en fait, avec les connaissances que j'ai, bah, ça me permet peut-être d'éviter moins d'erreurs, donc ce qui m'a permis d'évoluer beaucoup plus vite dans le football américain aussi. Donc, c'est pour ça que bah, la connaissance de l'entraînement aujourd'hui, elle est un petit peu super importante quand on veut aller au haut niveau, parce que surtout dans le football américain, où la prépa physique, c'est aussi presque 50% du travail, quoi.
Exact. Dans les entraînements de football, tu sais, sur, mettons, c'est un des seuls sports où est-ce qu'on va s'entraîner plus qu'on va jouer. On parle pratiquement de 9 mois de préparation pour une saison qui va en durer environ 3. J'aimerais que tu m'expliques en fait le cycle d'entraînement. Parce qu'on parle souvent de vitesse, explosivité, de force et de puissance. J'aimerais que tu m'expliques la différence dans ces 4 types d'entraînement-là, mais aussi si tu pouvais m'expliquer dans le cycle d'entraînement jusqu'à la saison, ça va ressembler à quoi?
Alors, nous, ici, comment on travaille à Missouri State, ça va être peut-être un petit peu pas différent, mais faut savoir que dans toutes les off-season, on va dire que toutes les facs, elles vont travailler un petit peu de la même façon. Le but, ça va être de l'intersaison, ça va être de préparer nos joueurs et de justement les faire progresser le plus possible sur leur taux de force, leur force max, mais aussi les faire progresser en vitesse max et en répétition de sprint, ainsi qu'en accélération, d'accord? Donc, nous, on choisit à chaque fois de mettre le terrain en premier. Donc, notre système d'entraînement, il va être terrain plus salle, terrain plus salle, terrain plus salle. Et ensuite, après, en salle, on va chercher à développer bah, cette force max. Vraiment, c'est le mot d'ordre parce qu'aujourd'hui, la force max, c'est la qualité qu'un joueur de football il a le plus besoin, d'accord? Et ensuite sur le terrain, on va chercher à développer ben, cette explosivité, cette vitesse à travers un travail de sprint, d'accélération, ok? Et bien sûr, on va intégrer un petit peu de cardio et de répétition d'efforts dans notre programmation tout au cours de l'été, parce qu'il faut qu'ils arrivent pour les matchs capables de répéter les efforts à haute intensité. Mais tout ça s'améliore aussi par le fait d'avoir une haute vitesse max et le fait d'avoir une bonne capacité à répéter les efforts. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut. C'est un sport assez complet où tu dois aussi travailler un petit peu tout.
Non, c'est.
Est-ce que tu voudrais que j'aborde. Je ne sais pas si j'ai répondu totalement à ta question. Il y avait pas mal de trucs à aborder, donc
Oh non, je comprends.
c'était un peu général.
Si. Non, c'était quand même bon. Qu'est-ce qui est intéressant de. En fait, qu'est-ce que j'aimerais plus comprendre, c'est quand tu parles de vitesse, d'explosivité, de force et de puissance, c'est on les connaît tous, ces termes-là, mais en termes d'entraînement, qu'est-ce qui va être différent?
Tout ce qui va différencier, tu veux dire, si je différencie les entraînements de vitesse, d'explo, d'accel, c'est ça? Tout ce qui va les différencier, c'est qu'on ne va pas chercher les mêmes adaptations sur chacun des entraînements. Par exemple, si on va s'entraîner sur le terrain, dans notre même séance, on va pas avoir notre on va avoir notre gros corps de séance où, par exemple, en début de semaine, ça va être notre corps vitesse. Parce que nos joueurs sont frais, etc. Et là, on va avoir un plus gros volume sur du temps passé à vitesse max. En général, quand on a un peu moins de distance de course, là, par exemple, on aura plus d'explosivité qui va être couplée avec le travail d'accélération. En général, c'est comme ça que ça se passe. Quand on entraîne notre accélération, on la couple généralement avec des changements de direction aussi. Changement de direction et travail d'explosivité à travers le travail de la pliométrie et plein d'exercices comme ça spécifiques souvent au poste ou même au foot.
Ok. Fait que si tu pourrais répondre à cette question-là suite à ça, selon toi, les top 5 des meilleurs exercices pour un joueur de football?
Top 5 des meilleurs exercices pour un joueur de football. Squat. Ça, je pense que c'est le number one. Clean. Donc tout ce qui va être haltérophilie. J'ai envie de dire le sprint. Le sprint, si on considère comme un
C'est bon,
exercice.
ça.
Sprint dans toute sa globalité, hein, linéaire, non linéaire, etc. Le quatrième, pour la force du haut du corps, j'ai envie de dire développé couché. Et puis parce que aussi, c'est un pattern de mouvement qu'on va retrouver sur tous nos blocs. Donc c'est un mouvement super important. On est à 4. Et j'ai envie de dire, on va dire quelque chose. Qu'est-ce que je pourrais dire sur le dernier? J'ai pas envie de rentrer trop spécifique parce qu'il y a plein de moyens, mais allez, on va dire en off-season le A. Non, c'est bon. Le RDL, c'est bon.
Le RDL, ah, c'est bon.
RDL. Ça switch entre RDL et Nordic Hamstring. J'ai oublié de citer les exercices de chaîne post. Mais voilà, RDL ou Nordic Hamstring pour développer la force sur la chaîne post. Ça, c'est mon top 5.
J'adore, j'adore tous les exercices que est quand même très souvent pratiqué.
Ouais, mais parce que souvent, on va chercher à faire compliqué quand on veut rentrer dans la spécificité. Mais il faut savoir que développer la force et développer quelque chose de fonctionnel, ça passe par pratiquer des exercices assez simples.
Exact.
Et en fait, il n'y a pas de meilleur moyen que de développer nos capacités qu'avec des exercices tels que le squat, etc. Parce que on a un engagement complet du corps. Et puis aujourd'hui, c'est le meilleur moyen de développer des taux de force énormes et stimuler son système nerveux au max, quoi.
J'ai 10 questions pour toi. 10 questions en 60 secondes. C'est un segment que je fais sur mon podcast. Réponse rapide, que ce soit des choix de réponse ou c'est réponds comme tu le sens. T'es prêt? Café ou pre-workout?
Aucun.
Oh, ton exercice préféré à la salle?
L'épaulé.
Un athlète qui t'inspire?
Roquan Smith.
Oh, très bon. NFL ou NCAA?
NCA.
France ou USA pour la bouffe?
France.
Ton mot d'ordre dans la vie?
Discipline.
Un livre ou un podcast que tu recommandes?
Un livre ou un podcast, livre triphasique
Un
et
guilty.
podcast.
Non, mais vas-y, podcast.
Podcast, j'en écoute pas énormément par manque de temps, mais je lis plus des livres.
T'inquiète, c'est pas correct. Un guilty pleasure?
Donuts.
Oh, ben oui, ben oui. La meilleure qualité d'un athlète, selon toi?
La vitesse.
Et ton rêve ultime comme préparateur physique?
Rentrer dans un staff NFL.
Oh, très sick. Tu m'as dit café ou pré-workout, tu m'as dit aucun des deux. Pour quelle raison?
Je ne prends pas de caféine. Et moi, j'utilise très souvent la petite phrase je me drogue au bonheur.
Ah, c'est bon ça.
Et en fait, c'est vraiment ma petite. C'est vraiment une citation que j'aime bien et un petit mot que j'aime bien me répéter parce que la caféine, je ne suis pas super fan, je ne bois pas de café, je ne bois pas énormément de boissons énergisantes, à part si vraiment je dois enchaîner beaucoup de choses. Mais moi, je préfère être content quand je m'entraîne et je pense que c'est ça qui m'anime. Et la meilleure caféine, ce serait peut-être la musique. La musique aurait peut-être le même rôle que la caféine sur moi.
Intéressant, j'aime ça. En finissant un lien, j'ai vu dans tes vidéos que tu parles de vouloir te concentrer sur ta carrière et poursuivre tes rêves. Quelles sont ces ambitions-là?
Ah ouais, mes rêves, c'est. J'en ai bouclé pas mal déjà. C'était déjà être un rêve de venir ici coacher. Le premier, le plus gros, c'est de jouer pro et d'avoir une carrière pro en tant que joueur de foot US. Et après, bien sûr, c'est aussi être capable de vivre de la préparation physique et du coaching, pouvoir aider les personnes et vivre où je veux quand je veux. Ça serait aussi un deuxième rêve parce que c'est le plus gros avantage et pouvoir me dire que cette semaine, je vais aller travailler dans le nord de la France ou cette semaine, je vais aller travailler, je sais pas, en Croatie, en Estonie, en Suède ou à Bali. Avoir la liberté de mouvement sur mes intersaisons, etc. Je pense que ça, c'est un de mes deuxièmes gros rêves. Et après, quand j'aurai fini cette carrière, bien sûr, intégrer un staff professionnel, ça serait un bel objectif.
Effectivement. Écoute, je te souhaite que le meilleur. Je suis un très. En fait, je suis un peu comme ça aussi. J'ai des grandes ambitions dans la vie. Donc, j'aime ça parler avec des gens qui en ont aussi. Je te souhaite le meilleur. Merci beaucoup, Elian, d'avoir accepté de venir sur le podcast. C'était chaotique. Il s'est passé plein d'affaires. Mais sais-tu quoi? Ce que j'aime dire, c'est qu'est-ce qui rend un épisode bon et un épisode spécial? Mais merci beaucoup, Elian. C'était très apprécié aujourd'hui. Puis écoutez, peut-être qu'un jour, on va avoir l'occasion de se faire un épisode 2 où est-ce que tout va marcher correctement. Mais ça sera à suivre. Elian, merci encore, sérieusement. C'était vraiment smart. J'espère que tu as aimé ça.
Après, le problème, c'est aussi le visio. Pas souvent compliqué. Et puis moi, je suis entre deux réunions, donc j'ai des appels un peu partout. Mais il n'y a pas de souci, avec grand plaisir. J'ai vraiment apprécié.
Ben, merci beaucoup. Je te souhaite que des bonnes choses, Elian, puis je vais continuer à te suivre, mon cher.